Chapitre 15. Seuls les bêlements plaintifs de Betty troublaient le silence de mort qui s'était abattu sur le camp. Des cadavres gisaient un peu partout. À première vue, l'attaque était terminée. L'épée toujours au poing, Richard traversait le charnier pour rejoindre Callan. Debout près du feu, Jensen regardait Kara examiner les morts. S'éloignant de l'homme qu'elle venait de toucher avec son pouvoir, l'inquisitrice alla à la rencontre de son mari qui l'enlaça de son bras libre. « Tu vas bien ?» demanda Richard. Callan hocha la tête, puis elle regarda autour d'elle, craignant de voir jaillir de nouveaux attaquants, mais apparemment la source s'était tarie. « Et toi, tu vas bien aussi ?» Richard sembla ne pas avoir entendu la question. « Par les esprits du bien » soupira-t-il. Lâchant sa femme, il courut s'agenouiller près d'un cadavre. C'était Sabar. Jensen approcha, son couteau encore à la main. Tremblant de tous ses membres, elle se jeta dans les bras de Callan, qui lui caressa la tête et lui murmura que c'était fini à présent.
Sabar, Callan, il a tenté de me protéger.
Je sais, je sais. Richard venait de retourner le jeune homme sur le dos. Les membres inertes, Sabar n'était déjà plus de ce monde et il n'y avait rien à faire pour lui. Le souffle court, couvert de sueur et de sang, Tom déboula dans le camp. Dès qu'elle le vit, Jensen se dégagea des bras de Callan et courut vers lui. Il l'enlaça et elle posa la tête sur son épaule. Dans le chariot, Betty bêlait toujours misérablement, comme si elle hésitait à en sortir. Jensen l'encourageant de la voix, elle se décida enfin et vint se réfugier dans les jupes de son ami. Toujours sur ses gardes, Tom sondait nerveusement les ténèbres. Kara marchait entre les cadavres, s'assurant qu'aucun des types ne faisait semblant d'être mort afin de pouvoir placer plus tard une attaque surprise. Dans la plupart des cas, le doute n'était pas permis car les brutes étaient pratiquement coupées en deux. De temps en temps, la mort de Sit dut quand même tapoter un dos de la pointe d'une botte ou du bout de son agiel. Elle n'obtint pas l'ombre d'une réaction. Callan posa une main sur le dos de Richard qui s'était agenouillé près de sa barre.
« Combien de gens devront mourir pour expier le péché d'avoir voulu être libre? Combien ?»
Callan vit que le sourcier serrait toujours l'épée de vérité. À l'évidence, la colère de larmes coulait encore à flot dans ses veines.
« Combien ? » répéta-t-il furieux. « Je n'en sais rien, Richard, » murmura Callan.
Le sourcier tourna la tête vers l'homme agenouillé à l'autre bout du camp. Trop effrayé pour parler, le colosse vaincu attendait que sa maîtresse daigne s'occuper de lui. Une personne touchée par le pouvoir d'une inquisitrice changeait radicalement. Son identité s'effaçait et elle ne vivait plus que pour servir sa maîtresse. Tout ce qui faisait normalement un être humain était remplacé par une dévotion aveugle. Plus rien d'autre ne comptait. Le seul but de cet homme, désormais, serait d'obéir à Callan, de la satisfaire et de répondre à toutes ses questions. Une fois sous la domination d'une inquisitrice, un sujet pouvait avouer sans sourciller n'importe quel crime. C'était pour ça qu'on avait créé l'ordre des inquisitrices. En un sens, comme le sourcier, elles avaient pour mission de découvrir la vérité. En temps de guerre en particulier, la vérité était une arme essentielle lorsqu'on entendait survivre. Le type agenouillé était désespéré parce que sa maîtresse ne lui avait rien demandé. Pour lui, ne pas savoir ce qu'elle voulait était une atroce souffrance, car sa vie, s'il n'était pas occupé à la servir, perdait tout son sens. Quand l'inquisitrice qui les avait touchés se désintéressait d'eux, beaucoup d'hommes se laissaient simplement mourir de chagrin. Tout ce que Callan demanderait à sa victime, son nom, celui de sa bien-aimée, et tout ce qu'elle lui ordonnerait, y compris tuer sa propre mère, lui remplirait le cœur de joie parce qu'il se sentirait enfin utile. « Essayons d'en savoir plus sur tout ça, » soupira Richard. Épuisé, Callan regarda l'homme agenouillé sur le sol. À peine capable de tenir debout, de la sueur ruisselant entre les seins, l'inquisitrice avait avant tout besoin de repos, mais un problème urgent allait l'empêcher d'en prendre. Alors qu'il était encore à mi-chemin du prisonnier, Richard s'arrêta et baissa les yeux. À ses pieds gisaient les morceaux de la statue que leur avait apportée Sabar. Il n'en restait plus que des fragments uniquement reconnaissables parce qu'il s'agissait d'ambre transparent. Par bonheur, Nietzsche précisait dans sa lettre que la statue ne leur servirait plus à rien une fois qu'elle aurait délivré son avertissement. Apparemment, Kalan avait sans le vouloir brisé un champ protecteur qui isolait quelque chose de terriblement dangereux. L'inquisitrice ignorait de quoi il s'agissait. En revanche, elle avait peur de savoir pertinemment ce qu'elle avait fait pour briser le champ de force. Et elle redoutait que la magie de l'épée ait commencé à faiblir à cause d'elle. Quand elle baissa à son tour les yeux sur les restes de la statue, le désespoir la submergea. « Ne te laisse pas emporter par ton imagination, » dit Richard en lui passant un bras autour de la taille. « Nous ne savons pas encore de quoi il s'agit, ni même si c'est la vérité. Ça peut être une sorte d'erreur ou quelque chose dans ce genre. » Kalan aurait donné cher pour croire une chose pareille. Richard rengaina enfin l'épée de vérité. « Tu voudrais te reposer un peu avant d'interroger cet homme ?» Kalan passait toujours avant tout pour lui. Il en allait ainsi depuis leur rencontre, mais aujourd'hui c'était elle qui s'inquiétait pour lui. Quand elle utilisait son pouvoir, une inquisitrice était vidée de ses forces. Cette fois, Kalan ne se sentait pas seulement épuisée, mais aussi terriblement nauséeuse. Sa nomination au poste de mère inquisitrice s'expliquait en partie par son aptitude à récupérer rapidement après avoir libéré son pouvoir. En règle générale, il lui fallait quelques heures, alors que ses collègues avaient besoin d'une journée entière, voire de deux. En repensant à toutes ces femmes, souvent des amies qu'elle adorait, Kalan éprouva un désespoir qui ne fit rien pour améliorer son état. Toutes les autres inquisitrices étaient mortes depuis longtemps, victimes de Darkenral. Pour récupérer ses forces, la mère inquisitrice aurait besoin d'une nuit de sommeil, mais cela devrait attendre parce qu'il y avait d'autres urgences, et surtout Richard qui avait besoin d'elle. « Non, » répondit-elle enfin, « je vais bien et je me reposerai plus tard. Allons interroger ce type. » Richard balaya du regard le camp jonché de cadavres. La terre était rouge de sang et souillée d'entrailles encore fumantes. La puanteur des viscères et celle du cadavre carbonisé accentuaient la nausée de Kalan. Tournant le dos au prisonnier agenouillé, elle se blottit contre Richard. Malgré ses fanfaronnades, elle était épuisée. « Ensuite, » dit-elle, « nous quitterons cet endroit. Il le faut, car d'autres hommes pourraient venir. » Et si Richard devait dégainer son épée, la magie risquait de lui faire défaut. « Nous devons trouver un endroit plus sûr. » Richard approuva d'un hochement de tête. Malgré le carnage, ou peut-être à cause de lui, Kalan se sentait merveilleusement bien dans les bras de son mari. Le souffle court et l'air effaré, Friedrich déboula à son tour dans le camp. S'arrêtant net, il lâcha un petit cri de surprise et peut-être aussi de dégoût en découvrant le charnier. « Tom, Friedrich ?» demanda Richard. « Vous pensez que d'autres attaquants risquent d'arriver ?»«
Non, » répondit Tom. « Je crois qu'ils étaient tous là. Je les ai repérés alors qu'ils progressaient dans un ravin. Je tentais de venir vous avertir quand quatre de ces types, cachés au sommet d'une butte, m'ont sauté dessus. Les autres ont continué leur chemin.
« Je n'ai vu personne, Seigneur Rall, » halta Friedrich, « mais je suis venu au pas de course dès que j'ai entendu les cris. »
Richard tapota gentiment l'épaule du vieil homme.
« Va aider Tom à atteler les chevaux, je ne veux pas passer le reste de la nuit ici. »
Tandis que les deux hommes s'éloignaient, Richard se tourna vers Jensen. « Tu veux bien dérouler des couvertures à l'arrière du chariot ? J'aimerais que Kalan puisse se reposer lorsque nous partirons. »«
J'y vais, Richard, » répondit la jeune femme.
Elle courut vers le chariot, Betty la suivant comme son ombre. Tandis que tous s'affairaient à préparer le départ, le sourcier repéra un petit carré de terre et alla y creuser une tombe étroite. Pour un bûcher funéraire, le temps manquait, et le pauvre Sabar devrait se contenter d'une sépulture rudimentaire. Mais son esprit avait déjà quitté ce monde, et il ne leur en voudrait pas d'avoir dû s'occuper un peu hâtivement de son corps. Kalan se demanda si toute cette mystique avait encore un sens. Après avoir lu la lettre de Nietzsche et appris ce que signifiait la balise, elle avait encore plus de raisons de douter que bien des choses, dont les esprits, par exemple, continuaient d'exister. Le royaume des morts était connecté au monde des vivants par des liens magiques. Le voile était une manifestation du pouvoir, et on disait qu'il se nichait à l'intérieur des gens comme Richard. Sans la magie s'était établie, les fameux liens cessaient d'être actifs. Les autres mondes ne pouvant pas exister indépendamment de celui des vivants, En d'autres termes, il leur fallait une relation avec celui-ci, et ils risquaient purement et simplement de disparaître. Kalan était à présent certaine que l'emprise de la magie sur le monde s'était relâchée, et cela avait commencé depuis des années. Elle savait pourquoi. Les esprits, qu'ils fussent du bien ou du mal, et toutes les autres créatures qui dépendaient de la magie, étaient menacées de disparition. Si cela se produisait, la mort deviendrait un point final dans toutes les acceptions de cette expression. Il serait impossible de retrouver un être aimé après la vie et de prendre place aux côtés des esprits du bien, car ces esprits, voire le royaume des morts tout entier, auraient sombré dans le néant. Quand Richard eut fini de creuser, Tom l'aida à placer délicatement le corps de Sabar dans la tombe. Après que le colosse blond eut prononcé quelques mots pour recommander l'âme du défunt aux esprits du bien, les deux hommes recouvrirent de terre la dépouille. « Seigneur Hall, dit Tom lorsque la cérémonie fut achevée, « pendant que la majorité de ces types vous attaquaient, quelques-uns sont allés trancher la gorge des chevaux. « Tous les chevaux ? À part les miens. Ce sont des bêtes énormes, et ces salopards ont sans doute eu peur de se faire piétiner. Comme j'étais en train de me battre contre quatre tueurs, je n'ai pas pu intervenir. Les autres ont dû décider de s'occuper de mes chevaux une fois qu'ils en auraient eu fini avec vous. » Tom haussa les épaules. « Pour ce que j'en sais, ils avaient peut-être prévu de vous capturer, de vous ligoter et de vous jeter dans le chariot. » Richard haussa simplement la tête puis s'essuya le front d'un revers de la main. Kalan trouva qu'il avait l'air encore plus mal en point qu'elle. À l'évidence, sa migraine était revenue et il souffrait atrocement. Tom jeta un regard circulaire dans le camp. « Que faisons-nous des autres cadavres ? » demanda-t-il. « Les coureurs s'en délecteront, » répondit Richard sans l'ombre d'une hésitation. Tom n'émit aucune objection contre ce programme. « Je vais aller aider Friedrich à atteler les chevaux. Avec la mort des autres bêtes et l'odeur du sang, ils doivent être très nerveux. » Alors que le géant blond s'éloignait, Richard appela Kara. « Compte les morts, » dit-il. « Je veux savoir combien il y avait d'agresseurs. »
« Richard, » souffla Kalan quand Tom et Kara furent assez loin pour ne pas l'entendre. « Qu'est-il arrivé quand tu as dégainé ton épée ?»«
Quelque chose cloche avec son pouvoir. Quand j'ai saisi l'arme, elle n'a pas répondu à mon appel. Mais nos agresseurs arrivaient et il fallait agir vite. Une fois le combat commencé, le pouvoir s'est réveillé. C'est probablement un effet de mes maux de tête. Comme ils sont provoqués par la magie, ils doivent perturber mon lien avec l'épée de vérité.
La dernière fois que tu as eu ces migraines, elles n'ont eu aucune influence sur le pouvoir de l'épée.
Je t'ai déjà dit de ne pas te laisser emporter par ton imagination. Ce phénomène se produit depuis que j'ai mal à la tête et il doit y avoir un rapport.
Kalan se demanda si elle devait adhérer à cette logique. D'ailleurs, Richard croyait-il lui-même à ce qu'il racontait?
Cela dit, il avait raison sur un point. Les défaillances de la magie de l'épée étaient récentes et elles correspondaient au retour de ses migraines.
« Tu as de plus en plus mal, n'est-ce pas ?»
Le sourcier se contenta de hocher la tête.
« Viens, allons chercher quelques réponses. »
Kalan eut un soupir résigné. Il devait saisir cette occasion d'en savoir plus. Elle se dirigea vers le prisonnier.